curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonjour à tous, nous sommes lundi 29 avril 2024, il est 17h30 et vous êtes sur Prune 92 FM. Bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne d'actualité locale. Je m'appelle Martin et avec mon équipe, nous avons le plaisir de nous retrouver tous les lundis pour une heure d'échange sur l'actualité nantaise. Nous commençons la semaine avec un beau temps tropical, après un week-end pluvieux. Alors tropical peut-être c'est beaucoup, mais en tout cas effectivement ce sera une frustration pour ceux qui travaillent avec ce beau temps. Du coup à deux jours du 1er mai, journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses. Une pensée à toutes celles et ceux qui travaillent encore ou éventuellement qui font le pont, pourquoi pas, ou encore qui travaillent dans des conditions peut-être difficiles. Nous allons en parler du coup dans un instant. N'oublions pas que le travail en tout cas peut avoir plusieurs formes et également du coup sur du bénévolat. N'oublions pas, même si certains ont fâcheuse tendance à l'oublier. Dans le programme d'aujourd'hui, et oui, en effet, dans le programme d'aujourd'hui, nous aurons Perrine qui revient avec son 9e épisode sur du coup l'espoir fait vivre. Nous aurons également une pause cadeau avec Esteban qui vous offrira toujours et toujours des cadeaux. Nous aurons également dans le portrait de vie Maud qui reçoit Anne Chauchet, responsable développement et coordinatrice de la coopérative de nettoyage Very Fair. Et également Augustina, intégratrice. Nous allons commencer en tout cas avec Julie cette fois-ci qui est de notre côté.
Oui, salut Martin.
Salut. Elle reçoit du coup Cléo Giroir du coup et également Jade et Julien de Repair 44, de l'association Repair 44 et également
du collectif. Éducateur et éducatrice spécialisée également.
Exactement, mais c'est toi qui vas mieux en parler que moi pour ce sujet. C'est tout de suite dans Curiosité.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
Curiosité, le Zoom Actu.
L'accompagnement des personnes vulnérables est en crise, pénurie de personnel, turnover répété, épuisement des équipes, besoin de revalorisation. Les travailleuses et travailleurs sociaux ainsi que les personnes qu'elles accompagnent sont confrontées à une baisse de moyens. C'est le cas notamment du secteur de la protection de l'enfance. Jeudi 22 février dernier, à l'initiative de l'association Repair 44, association par et pour les jeunes en fin de parcours ASE, aide sociale à l'enfance, les professionnels du secteur se sont réunis devant les grilles de l'hôtel du département de Loire-Atlantique pour protester contre la fin du dispositif de prolongation du contrat jeune majeur pour les jeunes de 21 à 25 ans. Ce dispositif mis en place par le département, permettait aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance de prolonger les aides dont ils bénéficiaient pendant leur minorité et de les accompagner ainsi progressivement vers l'autonomie. Un dispositif d'autant plus indispensable quand on sait que l'injonction à l'autonomie précoce faite aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance tend à les vulnérabiliser davantage. 40% des jeunes sans domicile fixe ont en effet connu un parcours en protection de l'enfance. Aujourd'hui, le département de Loire-Atlantique, pourtant précurseur dans la protection de l'enfance, rétropédale, ce qui alerte les travailleuses et travailleurs sociaux. Alors de quoi la suppression de ce contrat jeune est-elle le signe? En quoi est-elle révélatrice d'un désengagement de l'État et des politiques locales en matière de solidarité? Quels sont les effets pour les jeunes et les professionnels du secteur? Qu'est-ce que cela raconte de la réalité du travail social en France? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Cléo, éducatrice spécialisée, syndiquée à la CGT et membre du collectif Travail Social en Lutte 44. Julien, également éducateur spécialisé, délégué co-sociétaire Sud Santé Sociaux 44, et Jade, jeune placée et membre de l'association Repair 44, réseau d'entraide pour les jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Alors, plus de 300 000 mineurs sont suivis par la protection de l'enfance en France. Peut-être peut-on le rappeler d'abord, c'est quoi la protection de l'enfance et qui est concerné?
Alors, la protection de l'enfance est gérée en France par les départements, par délégation d'autorité de l'État depuis quelques années maintenant. L'idée, c'est de pouvoir prendre en charge, accompagner, soutenir tous les enfants qui sont en danger dans leur famille, ou même de les accompagner éventuellement à domicile quand il y a la possibilité de travailler le lien parent-enfant et de soutenir la parentalité.
Julia ?
Bah, c'est en gros ça. Nous, on a l'habitude de dessiner un peu une carte sur, comme si vous faisiez une croix, en fait. En gros, vous mettez en haut les plus jeunes, en bas les plus vieux, à droite la question du handicap, à gauche la question de la protection de l'enfance, et vous mettez là-dedans les familles. Et en fait, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux se positionnent et les départements ont créé des services pour être au plus près des besoins de chacune de ces personnes.
Alors des aides existent pour les mineurs, mais alors que se passe-t-il quand la majorité est atteinte? C'est un peu la question ici. Comment ne pas abandonner les jeunes passés 18 ans? Le dispositif contrat jeune majeur intervient à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable? Là, je me tourne peut-être vers Jade.
Déjà, pour rappeler les chiffres nationaux, les personnes hors protection de l'enfance sortent de chez leurs parents à 24 ans. En moyenne, les jeunes de la protection de l'enfance sortent à 19 ans et demi. Le contrat jeune majeur, à 18 ans, personne n'est prêt pour être autonome financièrement, émotionnellement. Personne n'est autonome à 18 ans. Donc, il y a le contrat jeune majeur qui doit être une demande du jeune et des professionnels qui le prennent en charge. Et donc, grosso modo, cette demande est approuvée ou non par le département, en fonction des éléments et arguments présentés sur la fiche de demande.
Mais elle peut être refusée.
Elle peut tout à fait être refusée. Et normalement, il y a une loi qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle la loi de Taquet, et qui est censée empêcher les sorties sèches. Mais cette loi est aujourd'hui très peu respectée à l'échelle nationale.
Alors justement, là, je me tourne vers Julien, vers Cléo. Donc vous accompagnez les jeunes. Comment se met en place cet accompagnement quand il est appliqué?
Alors l'idée, c'est quand même de travailler cette autonomie en amont, bien avant 18 ans. Mais quand bien même, comme le rappelait Jade, à 18 ans, la plupart des jeunes ne sont pas prêts et c'est bien normal. Il faut quand même rappeler que le département de Loire-Atlantique, il y a à peine 3 ans, avait même prolongé, en fait, dans l'idée, les contrats jeunes majeurs jusqu'à 25 ans et a rétro-pédalé là très récemment. Donc il y avait quand même cette idée à la base de pouvoir prendre en compte les réels besoins de ces jeunes-là, notamment au niveau de la maturité affective, émotionnelle, puisque c'est bien là qu'est notre travail. Et ce rétro-prédalage, montre qu'il y a quand même un véritable enjeu financier et fait appel quand même à une dynamique très capitaliste qu'on peut voir un petit peu partout aujourd'hui. Et nous, c'est aussi contre ça qu'on vient lutter. Donc vraiment dans l'intérêt des jeunes en premier et puis contre ce système global qui met en avant les aspects financiers, boursiers, avant l'humain.
Oui, ce que j'allais vous demander, pourquoi la suppression de la prolongation jusqu'à 25 ans impose problème? Au final, qu'est-ce que ça va empêcher?
Ça va empêcher surtout une chose assez importante, c'est que la plupart des jeunes en protection de l'enfance, il y a une forme d'injonction un peu contradictoire à s'insérer plus rapidement que les jeunes qui sont issus de familles pas en difficulté. Aujourd'hui, de 18 à 25 ans, en termes d'aide sociale, si vous n'avez pas travaillé, vous ne pouvez pas toucher le RSA, à part quelques situations particulières du type une mère isolée ou un père isolé. Père isolé, je crois que ce n'est pas le cas, mais mère isolée, c'est le cas. Donc ce qui fait que ces jeunes-là, il y a une injonction à s'insérer très vite et à trouver un travail très vite. Du coup, là, ça a été supprimé là, il n'y a pas très longtemps pour une question financière au niveau du département. Le département est en déficit annoncé de 62 millions d'euros. Les chiffres aussi entre 100 millions et 62 millions d'euros. Nous, on retient pour l'instant l'information officielle qui est de 62. Donc, ils ont impacté plus de la moitié de ce manque à gagner qui se projette sur 2024 dans l'action sociale et la protection de l'enfance et notamment dans la question des suppressions de ce qui était une position politique très forte, d'accompagner les jeunes de 21 à 25 ans et de proposer une continuité jusqu'à pouvoir justement s'insérer et prendre le temps de trouver une orientation qui nous convient. Parce que, petite info, au cas où, si on arrête, si on n'est plus accompagné jusqu'à 21 ans, en gros, on nous offre maximum, en tout cas on offre aux jeunes maximum d'aller jusqu'à Bac plus 3, parce que pour aller jusqu'à Bac plus 5 en alternance, avec des revenus stables, c'est presque impossible. Donc en gros, on demande à ces jeunes-là, il faut s'insérer plus vite, et idéalement aller plutôt vers de l'apprentissage. Il y a même une injonction semi-officielle qui a été faite au niveau des institutions là-dessus. Donc voilà. Donc ça pose vraiment problème aujourd'hui qu'on supprime ces contrats jeunes majeurs.
Jade, en tant que jeune aussi concernée, quel est ton regard sur la suppression de ce dispositif?
concrètement, à 21 ans, ça peut être compliqué. Et puis, sachant les démarches aujourd'hui, ne serait-ce que pour avoir un logement social, en 3 ans, tu ne l'as pas, en fait. Donc, on essaye de pallier des trucs, mais ça ne marche pas du tout, avec une volonté qui est là pour dire que c'est pour prendre en charge plutôt les jeunes qui sont aujourd'hui, parce qu'il y a un gros déficit de jeunes pas pris en charge. Il y a 350 jeunes en attente d'une prise en charge aujourd'hui en Loire-Atlantique. Et puis, c'est des jeunes souvent avec des grosses difficultés, en fait, qui dépassent les 21 ans. C'est ce qu'on a pu remarquer sur les derniers contrats jeunes majeurs au-dessus de 21 ans. C'est que globalement, c'est des jeunes très, très en difficulté, très durs à mobiliser et souvent avec une forme de handicap. Et puis, ce que ça veut dire aussi à l'échelle nationale, c'est que plus personne ne se positionnera pour prendre en charge les jeunes au-dessus de 21 ans. Puisqu'ils se référeront sur la Loire-Atlantique, où ils se diront ça n'a pas marché, donc on ne le fait pas.
Alors, je le disais en introduction, le secteur social est en crise. Et celui de la protection de l'enfance ne fait pas exception. Un turnover, métier sous-payé, baisse de moyens, là, vous venez de le montrer. En quoi, justement, la suppression de ce dispositif, c'est révélateur de cette crise-là, de l'action sociale ?
Le métier de l'action sociale, c'est un métier d'attachement et de relations éducatives. C'est-à-dire qu'en effet, il faut des gens qui soient stables dans les équipes. Et aujourd'hui, on est témoin d'un énorme turnover partout, dans toutes les équipes, ce qui met en difficulté largement la question des accompagnements sur le long cours. Là, ce que ça met en évidence aujourd'hui, c'est que le département a fait un choix financier qui est de supprimer ce type de dispositif au profit de certains autres, hein, même si on peut trouver une forme d'excuse budgétaire parce qu'ils étaient vraiment en difficulté. Là où nous, on est venu chercher autre chose, il n'y a pas très longtemps, on a rencontré un cabinet ministériel qui représentait la ministre Sarah El Haïry, et on est venu lui dire assez clairement, mais écoutez, le département, au vu de sa manière de fonctionner en termes de financement, ne peut pas complètement financer ce type de dispositif et a fait un choix qui est extrêmement discutable. Et ça, c'est notre popote interne, on verra avec le département. Mais au niveau de l'État, on a un appel clair, c'est qu'on demande à l'État de venir contre-financer là où dans les départements, il y a des réels manques de moyens. Pour illustrer un peu aux auditrices et aux auditeurs comment un département se finance, il se finance principalement sur deux axes. Le premier, c'est à travers des actes notariaux, il récupère une petite partie de l'acte notarial, donc quand on vend un appartement, quand on achète un appartement, et il se finance aussi sur la TVA. Donc on peut en tirer une conclusion très simple, quand on est dans un département qui n'est pas extrêmement riche, ou qui n'est pas dans une position de vente, ou en tout cas de dynamique d'installation de beaucoup de personnes, etc., on se retrouve sur un département pauvre. Et donc, en gros, pour faire simple, les départements les plus pauvres, qui ont la population la plus pauvre, on peut prendre en exemple le 93, hein, qui est la Seine-Saint-Denis, qui est vraiment très en difficulté, et c'est ceux qui reçoivent le moins d'aide. Et contrairement à dans les départements les plus riches, et c'est eux qui reçoivent le plus d'argent public. Donc ça n'a aucun sens. Donc on est venu nous demander à l'État de venir justement cofinancer ça et de reprendre leur engagement, parce que la délégation de services publics dans le cadre de la protection de l'enfance, c'est juste une délégation de services, mais pas une délégation de responsabilité.
Oui, parce que le département la met en cause, justement, l'État, ou en tout cas, rejette la faute sur l'État qui ne permet pas de financer ce type d'action, sur lequel il est, se dit obligé, en tout cas, de rogner pour des raisons budgétaires. In fine, est-ce que c'est la faute de l'État ?
C'est la faute... est-ce que c'est la question, est-ce que c'est savoir à qui c'est la faute ?
En tout cas, est-ce qu'il y a une déresponsabilisation, selon vous, des pouvoirs publics ?
Ah oui, clairement. Et il y a surtout un fléchage extrêmement mauvais de la question de l'argent public. Aujourd'hui, on voit qu'une grosse partie de l'argent public va pour des sociétés privées. Vous avez certainement entendu parler du CICE, hein, qui soutient les entreprises qui sont largement bénéficiaires la plupart du temps, et qui du coup reversent une partie de cet argent aux actionnaires. Donc c'est une forme d'argent public qui subit une dérive libérale, qui ne va plus directement vers ses services publics. Donc aujourd'hui, ça illustre une chose, c'est qu'on ne pointe pas, on ne dirige pas cet argent public vers les besoins principaux et les besoins primaires, vers les personnes qui sont régulièrement dans la misère, hein, parce qu'on ne peut pas se mentir, la protection de l'enfance, la plupart du temps, ça ne touche pas particulièrement les classes bourgeoises. Hein. Ça touche un petit peu, bien sûr, toutes les familles peuvent être en difficulté, mais la plupart des gens qui sont en difficulté, c'est plutôt les populations les plus pauvres. Donc ça vient dire une chose, ça vient surtout dire qu'on s'occupe moins des personnes qui sont en difficulté financière, qui sont plus dans la misère économique, sociale, etc.
Alors aujourd'hui, on s'intéresse aussi, même toute la semaine, hein, à la question du travail, comment repenser le travail. Là, notamment dans le secteur social, moi j'ouvrais en introduction dessus, sur un secteur qui est en crise, où les conditions de travail sont difficiles. Quel impact ça a, ce fléchage des politiques publiques, ce manque de moyens, hein, voilà, qui est une réalité? Comment ça vous impacte, vous, au quotidien, dans vos missions, Cléo?
Alors, très concrètement, déjà, on peut prendre le prisme de l'attractivité de nos métiers. Cette notion financière, puisqu'on a quand même besoin de manger, même si on est beaucoup à être engagé et à faire notre travail avec conviction, on a des salaires qui restent très bas. Il y a énormément de fonctions dans le travail social. On a, par exemple, des maîtres et des maîtresses de maison, on a des TISF, on a voilà, tout un tas de professions qui ont des salaires encore plus bas que ceux d'éducateurs spécialisés ou éducatrices spécialisées, d'assistants de services sociaux, etc. Nos salaires n'évoluent pas. Et donc à ce titre-là, ça attire de moins en moins de monde, on ne reste pas dans les structures, donc ça amène un turnover, ça amène une grande insécurité chez les jeunes, chez les travailleurs et les travailleuses, et tout ça finalement fait partie d'un grand tout qui fait que tout est complètement déstabilisé et insécurisant pour tout le monde.
Quel est votre regard justement sur l'avenir de votre profession ?
Bah, nous, justement, si on est là, c'est qu'on lutte, donc on y croit. Si on y reste, c'est qu'on y croit. Ce qu'on, là, on est très attristé, c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui sont partis, mais à raison, hein, avec des difficultés financières très importantes. On a quand même beaucoup de collègues qui se retrouvaient en dessous le SMIC et qui étaient vraiment très en difficulté. Moi, à titre d'exemple, j'ai déjà accompagné 3 collègues à trouver un logement. Donc, c'est-à-dire que je répète ma fonction avec des collègues. Enfin, c'est pas possible d'être dans ce type de situation. Nous, on croit qu'à un moment, là en tout cas, il y a comment dire, une petite notion d'espoir, même si l'espoir, il ne faut pas rester que là-dessus, mais il y a quelque chose qui se construit dans le 44. On a été quand même 400 l'autre jour, le 18 avril, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 18 avril, ouais. On était 400 personnes dans la rue pour la question de la protection de l'enfance. Alors, ce n'est pas énorme par rapport au nombre de personnes qui représentent la protection de l'enfance sur le 44, mais c'est quand même inédit. C'est quand même inédit en Nantes, mais aussi en France de manière générale, qui est une mobilisation aussi forte. Là, les gens en auront le bol. Les gens ont envie de redéfinir, les professionnels de ce secteur ont envie de redéfinir le sens de leur travail, aussi la question de leurs conditions de travail de manière générale, mais aussi les questions de conditions d'accueil des personnes. Donc là, on est en train de se construire, on a construit des revendications, on a construit des envies qui sont communes, et on va essayer de les porter ensemble, justement, pour que ça marche, et pour qu'on gagne, hein, parce qu'on ne manifeste pas pour le folklore d'être dans la rue, on manifeste pour gagner.
Et quelles sont-elles, justement, vos revendications ?
Alors, moi, je voulais juste peut-être rajouter, pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Julien et pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs ce que c'est le travail social, qui sont ces personnes et comment ça s'organise. Nous, il faut savoir qu'on a souvent des horaires décalés, on travaille les week-ends, on travaille les jours fériés et tout ça avec des salaires très bas. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de l'engagement qu'on a envers les personnes qu'on accompagne, c'est aussi un ajustement de nos vies personnelle qui est impactée quand on fait ce choix de métier-là.
Et donc vos revendications, pardon, on va finir là-dessus.
Nos revendications, elles sont quand même plutôt assez simples. C'est plus d'argent pour la question de l'accompagnement, pour les meilleurs moyens d'accompagnement et d'accueil des personnes. Ça, c'est certain. Plus de place, hein, parce qu'on est confronté à trop de personnes qui sont dans la rue et qui sont face à des situations où nous, on est en difficulté à travailler avec eux après, parce que la misère est trop importante. Ensuite, sur la question des conditions salariales, aujourd'hui, les deux principales conventions de notre secteur, alors ça va être un peu compliqué à comprendre, mais je vais le faire simple, c'est la convention 66 et 51, sont en cours de négociation et vont sûrement être rassemblées. Donc nous, on demande une augmentation salariale sans condition, un maintien des congés spécifiques, parce qu'on a un petit peu plus de congés que la plupart des gens qui ont 5 semaines. Nous, on est plus entre 6 et 8 maximum de semaines de vacances en plus. En tout dans l'année. Donc on demande plus de salaire, plus de moyens pour accompagner les personnes et du coup que nous on puisse en tant que travailleurs sociaux être considérés aussi dans la construction de ces services-là et dans les politiques publiques.
Et Jade, en tant que membre de l'association Repère 44, en quoi l'association rejoint aussi ces revendications-là, en quoi elle les soutient?
Nous, dans notre association, on est confrontés qu'aux sorties avec difficulté et qu'aux personnes qui sont très isolées suite à leur sortie. Donc globalement, nous, on a envie que le travail avant se passe super bien pour qu'on n'ait plus à faire notre travail à nous en tant qu'association. Et puis globalement, résumer tout ça aujourd'hui, c'est vraiment un manque de moyens financiers. Aujourd'hui, le financier réparait tout. En fait, ça réparait l'attractivité d'un point de vue salarial. Ça réparait le manque de logement. ça réparait tout, quoi. L'accompagnement aussi, parce que aujourd'hui on est très mauvais dans l'accompagnement psychique et on a une très mauvaise psychiatrie et pédopsychiatrie sur Nantes. Donc il y a besoin de money.
Donc besoin de monnaie, renforcer l'action sociale, donner plus de moyens. Oui, je crois que le message est passé. Merci Cléo, merci Julien, merci Jade. On poursuit notre émission thématique sur le travail et la réalité des conditions de travail en musique avec nous les cuisinières de Manuela Pioche et Alain Jean-Marie.
Curiosité. L'actu locale sur Prune, du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Auditeurise, vous êtes toujours dans...
Ça a l'air de les agacer qu'on ne travaille pas.
Est-ce que j'ai l'air agacé, moi, parce qu'ils travaillent ?
Auditoris, désolé, du coup vous êtes toujours dans Curiosité, j'ai commencé un peu trop vite. Nous continuons le programme avec Perrine et son neuvième épisode sur l'espoir fait vivre.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent.
Va falloir m'aider là.
Me prendre.
Avec moi ?
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume.
Non, non, cette petite intro en musique n'est pas devenue mon nouveau toc, mais elle est bien là pour donner le ton. Après la légèreté affichée de ma dernière chronique sur la célébration, aujourd'hui je reviens sur un sujet de fond. Cette semaine, vous n'êtes pas sans le savoir, il va y avoir la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs, plus couramment nommée Fête du travail. Alors oui, on peut s'offrir des brins de muguet en soutien à un idéal politique, mais surtout, pour fêter le travail, eh bien, on ne travaillera pas. On pourrait même dire que l'on chômera. Ok, d'accord. Et donc, si je veux respecter ce que je m'impose chaque semaine, que serait alors aujourd'hui le thème en Sion ? J'y viens, mais il faut bien broder un peu parce que la touche d'espoir dans le thème du travail, c'est pas easy. Donc, je veux bien travailler, vous voulez bien travailler aussi, mais pas à n'importe quel...
salaire ?
Rémunération,
c'est pas mal, mais moi, c'est condition que j'ai choisi aujourd'hui. Et bam, voilà, je suis dans le thème de ouf et je suis déjà à un tiers de ma chronique. Alors, le terme de condition, quand il est utilisé au singulier ou au pluriel, il peut prendre des sens bien différents. Au singulier, quand on parle de la condition physique, de la condition féminine, de la condition humaine, c'est un état à assumer, avec ses limites, comme des données inéluctables auxquelles il va bien falloir se faire. C'est pas hyper réjouissant. Alors qu'au pluriel, on évoque les conditions de vie, les conditions de travail. Et voilà, je retombe sur mes pattes, je suis dans le thème de la semaine, le travail. J'ai mon thème en Sion, les conditions, et maintenant je n'ai plus qu'à vous donner de l'espoir. On est bien d'accord que s'il y a des conditions aux choses, c'est bien que la chose en question a son lot de pénibilité. Et les conditions qu'on lui impose sont donc bel et bien là pour limiter la casse. Je vous propose donc de retracer l'histoire de nos conditions de travail avec ses grandes avancées au fil du temps, au prix parfois de luttes acharnées. On commence par le 19e siècle. Je sais, ça va être long. En 1884, la liberté syndicale est reconnue grâce à la loi Waldeck-Rousseau. Et oui, Nantaise et Nantais, Waldeck-Rousseau n'est pas qu'un commissariat. En 1893, on se préoccupe de l'hygiène et de la sécurité. En 1898, des accidents du travail. En 1906, du repos hebdomadaire. Puis vient la création du Code du travail. Quelle année ? Allez.
80... Oh là, je vais dire...
On est sorti du 19e.
Oh là.
1910,
bravo Maud. Vous voyez, ça fait pas de mal un peu d'histoire, chers auditrices et auditeurs. Restez donc attentifs. En 1914, on crée un fonds national de chômage. En 1919, la journée de 8 heures. Maintenant, la grosse année que vous attendez toutes et tous, celle du Front populaire. C'est donc... 1936, of course. Avec ses multiples lois sur les congés payés, les conventions collectives et la semaine de 40 heures. Puis, on passe directement après-guerre. Avec la sécurité sociale et les comités d'entreprise en 1945, la médecine du travail en 1946, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, en 1950, la troisième semaine de congés payés en 1956, la création de l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, l'ancêtre de Pôle emploi qui maintenant est même l'ancêtre de France Travail, en 1967. Je sais, c'est long, mais ça vaut le coup et en plus ce ne sont que des extraits choisis. Vient à présent l'année de la révolte, c'est mai...
68,
merci Maud, avec ses accords de Grenelle, et notamment la loi relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises. En 1970, c'est le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, et le congé maternité. En 1971, la quatrième semaine de congé payé.
À la suivante, je l'aime beaucoup. Attention, 1972. J'ai bien dit 1972, la loi relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. 1972. À partir de maintenant, ça vous sera un peu plus familier. 1982, semaine de 39 heures et 5 semaines de congés payés. 88, création du revenu minimum d'insertion, le RMI. 2002, 35 heures hebdomadaires. 2001, congé paternité, il était temps. 2008, la rupture conventionnelle fait son apparition et le RSA remplace le RMI. Et en 2012, la loi relative au harcèlement sexuel. On a aussi le télétravail depuis peu et puis bientôt peut-être le compte épargne temps universel. Ça, on verra bien ce que ça donne aux Européennes. Vous voyez, on revient de loin et je n'ai pas eu besoin d'évoquer que sous Vichy, certains droits avaient été supprimés puisqu'ils ont bien sûr été regagnés. Alors, ça donne pas du baume au cœur, ça ? Certes, ces conditions ne sont pas encore idéales et les lois pas toujours respectées, on se rappelle bien de celles de 1972, mais elles ont le mérite de nous encourager à mener toujours de nouveaux combats. Alors, faites comme Pink Martini, ne baissez pas les bras, faites valoir vos droits et imposez toujours vos conditions.
Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement
Nous continuons ce beau programme du coup avec la pause cadeau d'Esteban, c'est tout de suite dans Curiosité.
La pause cadeau.
Ce soir, Prune te fait gagner deux places pour le concert de Guy de Besbar qui aura lieu le mardi 30 avril à 20h30 au Stéréolux. A l'évidence, Guy de Besbar est de ces artistes qui ont de la suite dans les idées. Dès la sortie de Coco Jojo en 2021, il est persuadé que son deuxième album se nommera Ambition, un mot qui lui colle à la peau, qu'il répète souvent, moins par prétention que pour se donner de la force. Hasard ou non, ce terme est également utilisé par deux artistes qu'il apprécie, Whale et Tupac. Ambition fait donc sens à ses goûts, essentiellement puisé dans le rap américain et les musiques congolaises, avec son envie de ne pas se répéter, d'aller toujours plus haut, mais avec sa nouvelle vie, celle d'un homme qui a fait le choix de ne pas choisir entre l'art et le football. Et pour gagner ses places de concert, c'est simple, envoie un emoji sans interdit sur l'Instagram de Prune. C'est tout pour la pause cadeau d'aujourd'hui. On se laisse avec la suite de l'émission, mais avant, on écoute le morceau Pétille du dernier album de justement Guy de Besbar. Bonne écoute sur Prune.
Faites de la place, là c'est FOR. J'arrive avec tous mes partenaires. Fais pas comme nous, ça va te coûter cher. Tu vas mettre ta baraque aux enchères. On fait ça que pour finir au top. On fait ça pour finir millionnaire. Enchantez-moi ce logo. De la place, là c'est FOR. J'arrive avec tous mes partenaires. Fais pas comme nous, ça va te coûter cher. Tu vas mettre ta baraque aux enchères. On fait ça que pour finir au top. On fait ça pour finir millionnaire. Enchantez-moi, c'est le Coco Jojo. Connu partout dans les faits divers. Baby, baby, baby. On kiffe ça, ce coup champagne. Pouf, ça pétille. Pétille, pétille, pétille. Je l'emmène vers boutique. Elle a les yeux qui pétillent. Pétille, pétille, pétille. Les billets s'envolent, retombent comme confetti. Pétille, pétille, pétille. Hôtel Big Suite, room service, bon appétit. Pétille, j'dis quoi? J'suis matrixé par Harlem, et dans Pédine. So which porter? Crack money, que des hustlers, mental 18. J'ai de bêtes Harlem. J'suis dans le business, j'suis dans l'import-export, j'suis dans la frime. Saison 2 The Wire. C'est nous la jeunesse, on fait du cash, du sport, on est dans le crime. Baby, j'ai la vision à long terme, mais tu t'arrêtes sur le prix d'un Birkin. C'est les OG, façon Big Mitch, là les vrais méchants, pas les RK. Marcel est à Doubé. Étoile dans la RR, on est en Paris. Toute ta paye, c'est le prix de ma pesa. On flingue, on dépense vraiment, on fait pas de crime. Faites de la place, là c'est FOR. J'arrive avec tous mes partenaires. Fais pas comme nous, ça va te coûter cher. Tu vas mettre ta baraque aux enchères. On fait ça que pour finir au top. On fait ça pour finir millionnaire. Enchantez-moi, c'est le Coco Jojo. Connu partout dans les faits divers. Baby, baby, baby. On kiffe ça, secoue, champagne, pouf, ça pétille. Je l'emmène faire boutique, elle a les yeux qui pétillent. Les billets s'envolent, retombent comme confetti. Hôtel Big Suite, room service, bon appétit.
Motivation, motivation, motive tous les jeunes se leur à faire du cash. Te laisse pas battre par la vie, Mighty, c'est ambition, c'est pour toi. Lève ton verre avec toute ton équipe et faites le max pour être meilleur que l'année dernière. Ils portent l'œil mais on s'en fout. On porte des grosses lunettes quartier. Fais pleurer les billets.
Faites de la place, là c'est FOR. J'arrive avec tous mes partenaires. T'es pas comme nous, ça va te coûter cher. Tu vas mettre ta baraque aux enchères. On fait ça que pour finir au top. On fait ça pour finir millionnaire. Enchantez-moi, c'est le Coco Jojo. Connu partout dans les faits divers. Baby, baby, baby. On kiffe ça, secoue, champagne, pouf, ça pétille. Je l'emmène faire boutique, elle a les yeux qui pétillent. Les billets s'envolent, retombent comme confetti. Hôtel Big Suite, room service, bon appétit.
Baby, baby, baby.
Curiosité.
Portrait de vie.
Auditeurice, du coup, vous êtes toujours dans Curiosité. Nous continuons le programme comme d'habitude avec le portrait de vie. Et cette fois-ci, Maud reçoit du coup Anne Chauchet, du coup responsable développement et coordinatrice de la coopérative de nettoyage Vérifiable, du coup, un très bon jeu de mots. Et également Augustina, du coup, intégratrice, du coup, de, également dans la coopérative. Maud va tout nous expliquer, hein, parce qu'effectivement, ça demande des détails. Pardon.
Tout à fait, Martin. Merci.
Eh bien, on continue, on enchaîne, sans jingle.
Allez, c'est parti. Sur ce, alors, 9 sur 10, c'est le nombre de Français interrogés lors d'un sondage réalisé par l'Institut BVA Opinion en 2020, qui estime que l'hygiène et la propreté vont devenir des critères déterminants pour assurer leur santé et leur sécurité, sur les lieux de travail comme dans tous les espaces de vie au quotidien, immeubles d'habitation, transports, commerces, loisirs, etc. Et ce sont des travailleurs et travailleuses, souvent dans l'ombre, qui œuvrent à remplir cette mission avec des conditions de travail difficiles telles que pénibilité physique, horaires atypiques et fragmentés, ou encore cadence intense dans un secteur où la rentabilité est recherchée par-dessus tout, quitte à lorgner sur la qualité. Face à ce constat, 5 anciens et anciennes salariés d'un grand groupe national intervenant dans le secteur de la propreté se sont lancés comme défi en 2012 de concilier services de nettoyage et respect des travailleurs et travailleuses en créant la première coopérative de nettoyage et de services ménagers de Loire-Atlantique, Vérifiable. Lancée en 2017, Vérifiable, c'est aujourd'hui 34 salariés, dont 90% sont issus des minorités. Presque un quart des salariés sont également associés de la SCOP, on y reviendra dans un instant. 900 000 euros de chiffre d'affaires, en croissance de 15% en 2023. 150 clients particuliers et 100 clients professionnels, TPE, PME du secteur tertiaire, cabinets médicaux et paramédicaux et tiers-lieux. Et enfin, une présence dans 14 villes de la métropole. En novembre 2023, Vérifiable a été récompensé et mis sous les projecteurs en devenant lauréat du prix régional de l'ESS, Économie sociale et solidaire, décerné par la Caisse régionale de l'ESS. Alors, balayer les a priori sur les entreprises de services ménagers. Telle est la volonté de la SCOP Vérifiable. Au-delà du jeu de mots et de cette phrase qui marque, comment vous y prenez, Anne peut-être si vous voulez commencer, comment vous y prenez au quotidien pour répondre à ceci ?
Eh bien, bah déjà, vous avez dit beaucoup de choses. comment on s'y prend au quotidien ? Déjà, à travers nos valeurs, ça part des valeurs de la coopérative et des raisons d'être de cette coopérative qui, comme vous l'avez expliqué, ou comme tu l'as expliqué, Maud, les fondateurs de Vérifiable ont voulu créer cette entreprise pour maîtriser leurs conditions de travail, parce qu'on sait bien qu'effectivement, dans ce secteur-là, les conditions de travail sont difficiles, et notamment pouvoir aussi accompagner et former des nouvelles personnes pour pouvoir les intégrer l'équipe et permettre à des gens de travailler dans ce secteur-là en étant à la fois formés, donc ça passe par la formation, c'est-à-dire que nous on a un parcours de formation en interne que ce soit quand on intègre des personnes qui n'ont aucune expérience, on est en capacité de recruter des personnes sans expérience, que ce soit des personnes qui ont déjà une expérience mais qu'on va former à notre propre process d'intervention pour atteindre la qualité que l'on souhaite avoir. Et la qualité dit aussi des cadences qui soient très acceptables, raisonnables et qui permettent justement cette qualité de travail et qui permettent aux salariés de rester dans l'entreprise.
Anne, tu as parlé de plein de sujets que je voulais évoquer, donc je vais essayer de les reprendre un par un. Tu parlais des valeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les valeurs au sein de Vérifiable? Qu'est-ce qui vous caractérise et qu'est-ce qui va vous différencier des autres entreprises du secteur?
C'est les valeurs, c'est la solidarité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort chez nous parce que, comme tu le disais, les salariés de Vérifiable, 80% sont issus des minorités, donc avec des parcours... des parcours difficiles et les fondateurs, puis les personnes qui ont intégré après l'entreprise, ont souhaité tendre la main à d'autres personnes qui sont passées par les mêmes parcours. Et cette solidarité, elle est vraiment très, très prégnante chez nous. Il y a aussi le partage des richesses, et puis ça, c'est un élément fondateur et un fondement de la coopérative. On partage les richesses, c'est-à-dire que quand il y a du résultat à la fin de l'exercice, eh bien, il est partagé entre les salariés associés et puis l'entreprise. Et puis il y a aussi le respect, voilà, le respect à la fois des salariés, de nos collègues, et le respect des clients, et le respect des clients vis-à-vis des salariés. Et ça, c'est un élément aussi important, c'est-à-dire nos clients viennent aussi pour ça, c'est-à-dire pour les valeurs que l'on porte, et sont très respectueux justement de nos collaborateurs.
Et justement, tu parles des clients. Comment eux, ils vont percevoir votre différenciation? Qu'est-ce qui va faire qu'un client... Alors, tu parlais des valeurs, c'est quelque chose qui va leur parler. Comment eux, ils vont entendre parler de vous? Comment ils vont dire, finalement, c'est avec Vérifiable que j'ai envie de travailler? Quel discours ils ont quand ils vous contactent, peut-être pour un prochain contrat?
C'est beaucoup le bouche à oreille. Nous, on fonctionne par le bouche à oreille. On fait peu de communication, en tout cas pas de la communication grand public.
Pourtant, il y a des résultats. Quand on reparlait de 150 clients particuliers, 100 clients dans le secteur professionnel.
Tout à fait. Je peux même vous dire que là, sur l'exercice, l'année passée, on a progressé 30%, notamment chez les particuliers à domicile, puisqu'on intervient à la fois chez les particuliers à domicile et chez les professionnels. Et donc, les clients, ils viennent parce qu'ils savent que les salariés auront des conditions de travail, des bonnes conditions de travail. Et nos clients, ça leur importe, en fait. Ils sont prêts à payer parce qu'on n'est pas, effectivement, on n'a pas les tarifs les moins chers, mais qui se justifient parce que, justement, on souhaite que nos salariés aient des conditions de travail satisfaisantes.
Et comment on s'assure, finalement, comment on va s'assurer alors, je ne sais pas comment les décisions sont prises en interne, parce que j'imagine que quand vous êtes une coopérative, il y a un engagement encore plus quand on est salarié, et encore plus quand on est salarié et associé en même temps. Comment les décisions sont prises en interne? Qu'est-ce qui va différencier une société, on va dire, plutôt classique, qu'on va avoir l'habitude de voir dans le secteur? Et est-ce qu'il y a des rituels en interne qui vont aussi permettre de s'assurer que tout ce dont on discute, les valeurs, la différenciation, que tout ça est respecté et appliqué au quotidien?
Alors, il y a deux niveaux. Il y a à la fois, au niveau de la gouvernance, il y a à la fois la direction, qui est une co-gérance. Et c'est assez atypique dans ce secteur-là. C'est une co-gérance entre Laurent Hertière et Georges Colamarco, qui sont deux des cinq fondateurs de Vérifiable, qui permettent d'avoir le volet à la fois gestion d'une entreprise portée par Laurent et le volet vraiment terrain et technique qui est porté par Georges. Et cette vision, cette tête bicéphale apporte énormément, énormément. Et ça, moi, je le vois parce que je participe au comité aussi au comité de pilotage. Et Georges nous apporte sa vision de terrain tous les jours. Et ça, c'est fondamental, en fait, pour justement pouvoir être proche du terrain et puis s'assurer que nos valeurs, eh ben, elles s'appliquent, effectivement. Et après, il y a le deuxième niveau, c'est les associés, dont Agustina fait partie aussi, elle est associée. Et eux qui vont aussi, ben, les 8 associés, prendre des décisions, se rencontrer. Alors là, on est en train de retravailler sur tout la vie coopérative de l'entreprise, parce qu'on souhaite aussi qu'il y ait plus d'associés, de salariés associés. Après, il y a tout un accompagnement à structurer et à constituer, puisqu'on a un public qui n'est pas forcément aguerri à toutes ces notions-là d'entrepreneuriat, de sociétariat, etc. Donc, la première chose, c'est que quand on intègre quelqu'un, la personne, elle veut un boulot, elle veut un salaire pour se nourrir, pour nourrir sa famille. Et c'est dans un deuxième temps où là, on va pouvoir aborder cette notion de sociétariat. Et là, on est actuellement en train de travailler là-dessus.
Oui, l'objectif, si je comprends bien, c'est de pas s'arrêter uniquement à l'aspect, comme tu disais, avoir un travail qui va permettre de vivre, etc., bien évidemment, mais de se dire, allez, comment on peut accompagner cette personne ? Peut-être pour qu'elle se découvre aussi d'autres choses et qu'elle réussisse à s'épanouir encore plus dans la société, dans la SCOP.
Et dans le cadre d'un projet collectif. En fait, c'est le collectif est fondamental chez nous. Et donc, quand on intègre quelqu'un, alors on ne sait pas si la personne va rester, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette personne-là, elle s'inscrive dans la durée chez nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas recruter quelqu'un qui va nous dire « Bon, bah, moi, je veux rester 6 mois et puis après, je ferai peut-être autre chose, etc. » Parce qu'on on se projette sur des gens qui pourraient à terme devenir associés, qui pourraient à terme aussi évoluer dans l'entreprise. Et c'est le cas de certaines personnes, comme Agustina notamment. Et devenir associé à plus tard et participer à la gouvernance et à la prise de décision.
Très bien, merci beaucoup Anne. Je vous propose, auditeurs, auditrices, qu'on fasse une petite pause musicale avant qu'on puisse parler de ton parcours, Agustina, que tu nous racontes comment ça se passe chez Vérifiable en tant que salarié et associé. Donc je vous propose d'écouter la musique chanson des employés du nettoyage, comme ça on reste sur la thématique, issue du film Jeanne et le garçon formidable. Bonne écoute.
Pour tous les employés, c'est l'heure de la fermeture. À nous de travailler, ramasser les ordures. On pousse notre balai, on lave et on récure. Il faut tout nettoyer, il faut travailler dur. De tant de dévouement et de tant de souffrance, pour unique paiement, on nous expulse de France. On nous refuse tout le temps la nationalité, et même nos enfants ne seront pas français.
Curiosité. Portrait de vie.
Nous sommes de retour sur Prune 92 FM pour la suite du portrait de vie, presque double portrait de vie aujourd'hui, avec la présence d'Anne et d'Agustina, qui travaillent toutes les deux pour la société coopérative et participative Vérifiable. Alors Agustina, on va parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer depuis combien de temps tu travailles donc pour la SCOP Vérifiable? Comment tu as commencé? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Ça fait bientôt 9 ans que je suis dans la structure. Et j'ai commencé juste, en fait, je suis rentrée dans, dans l'entreprise juste pour faire un remplacement de 3 semaines. Voilà, c'est ma collègue Marjorie et mon amie aussi qui m'a demandé de faire un remplacement de 3 semaines. À ce moment-là, j'avais fait une pause parce que j'avais fait des formations dans la petite enfance. C'est ce que, voilà, c'est ce que j'aimais faire. Donc après, quand le remplacement s'est terminé, elle est venue me voir en disant que, voilà, qu'elle voulait que je reste. Donc, c'était pas dans mes projets. Hein. Je ne rêvais pas de faire du ménage. Mais aujourd'hui, ça fait bientôt 9 ans. Et je suis vraiment, voilà, je suis très contente. Je ne suis pas prête à partir.
Effectivement, 3 semaines passées 9 ans, c'est beau. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc, si je comprends bien, tu es arrivée plutôt sur la partie vraiment nettoyage au quotidien. Oui. Depuis 9 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours? Est-ce que tu as, je crois que tu es devenue intégratrice depuis. Voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu à ceux et celles qui nous écoutent ce que ça a donné?
Alors oui, beaucoup de changements. Où j'avais toujours envie de faire des choses, d'évoluer, parce que voilà, ça fait 18 ans que je suis arrivée en France. Et mes objectifs, c'était voilà, de travailler, d'avoir un travail où je sois heureuse, contente, et que je sois contente de me lever le matin, d'aller travailler. Donc, Vérifiable m'a vraiment donné tout ça, et même plus de ce que j'attendais. Donc, aujourd'hui, je suis salariée, associée, intégratrice, formatrice. Voilà, donc plein de choses qui ont changé pour moi. Et vraiment, j'aime ça, en fait. Je me sens vraiment très bien.
Ça se voit. Je pense que ceux et celles qui nous écoutent ne voient pas forcément ton sourire, mais ça se voit en studio en tout cas. Et ça veut dire quoi être intégratrice? Parce que si je comprends bien, il me semble que c'est un terme propre à Vérifiable. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien?
Ben c'est voilà, intégrer les nouvelles personnes qui arrivent dans les structures. Voilà.
Donc c'est les former, c'est leur montrer.
Les former, les montrer notre façon de travailler, expliquer du mieux possible. Tout en travaillant avec la personne, que, voilà, quelles sont les attentes des clients, et lui montrer vraiment le travail qu'on fait chez Vérifiable.
Et Agustina, donc tu expliquais, et on l'expliquait tout à l'heure aussi avec Anne, que les salariés peuvent devenir associés de la SCOP, donc tu l'es à titre personnel donc pour t'investir dans une aventure également entrepreneuriale. Pourquoi toi, à titre personnel, tu as décidé de l'être, et qu'est-ce que ça a changé peut-être dans ton rapport au travail ou même dans ton rapport à la participation finalement à la SCOP?
D'accord. Au début, en fait, ça ne m'intéressait pas. C'est vrai que quand on m'a proposé, pour moi, c'était vraiment une surprise. Parce que je ne m'attendais pas et je voyais ça comme une charge en disant wow, voilà, beaucoup plus de responsabilités, ça me faisait peur. Et parce que je voulais juste travailler, être heureuse dans mon travail. Voilà. Mais à la fin, quand on m'a expliqué, en fait, c'est devenu une passion. Voilà. Donc la différence, c'est qu'en fait, on est vraiment dedans, c'est comme une famille. Voilà, on se voit tous les lundis, on se rencontre tous les lundis avec les gérants, le gérant, mais Laurent, Georges, Anne, voilà, toute l'équipe, des intégratrices aussi. On discute de la vie vraiment de l'entreprise, on discute des clients, des nouvelles choses, de tous les projets, et ça vraiment, ça m'passionne.
Oui, parce que vraiment, il y a un investissement finalement qui va plus loin, il y a un engagement. Et il y avait une phrase aussi de Georges, qui était un des cofondateurs, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais qui disait qu'en fait, c'était notre entreprise. Et donc, il y avait un sentiment vraiment encore plus fort d'appartenance. Et tu as envie aussi d'aller encore plus loin avec les autres salariés. Et comment on devient associé finalement de cette SCOP? C'est quoi les conditions? On parlait de conditions tout à l'heure avec Perrine. C'est quoi les conditions pour devenir associé?
Alors, des conditions, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien de spécial. Voilà, c'est comme je me sens, peut-être que c'est très important, tout le détail, mais dans la pratique quotidienne, pour moi, voilà, il faut avoir au moins 2 ans dans l'entreprise, il faut avoir envie, il faut que la personne soit vraiment motivée, parce que pour nous, c'est comme quand on laisse un bébé à sa nounou. voilà, il faut que la personne ait vraiment envie de rester avec nous, de participer à la vie de l'entreprise. Que, voilà, parce qu'il y a une responsabilité de transmettre en fait les savoirs. Et ça, il faut vraiment le sentir. Voilà. Ça ne s'apprend pas dans le quotidien. Il faut avoir envie d'évoluer et de rester. Et après, ben, ça, tout le reste, ça vient tout seul. En fait.
Et Agustina, est-ce que, ou même Anne, tu peux aussi répondre à la question, c'est quoi l'ambiance finalement chez Vérifiable?
Ben, c'est une ambiance d'amour, de solidarité, de rapproche. Même quand on a un problème, bon, après, on n'est pas un assistant social, hein, mais c'est vrai que quand un d'entre nous, on a un souci personnel, en fait, on n'est pas content quand la personne n'est pas bien. Ça veut dire qu'on essaye de trouver, de lui parler, de lui dire est-ce que ça va aujourd'hui, et voilà, mais on fait ça vraiment naturellement.
C'est de l'entraide, on revient en fait, ouais, finalement au terme de solidarité qu'Anne évoquait tout à l'heure. J'ai pu, en préparant l'interview, j'ai pu voir qu'il y avait 12 nationalités différentes au sein de Vérifiable, qu'il y avait 2/3 des salariés qui n'ont pas le permis de conduire, et qu'il y a 1/3 des salariés qui ne parlent pas le français. Comment finalement, sur le papier ça pourrait être des freins, comment on fait en sorte que ces freins deviennent peut-être une force et pour l'entreprise et également pour vos clients?
Alors, c'est vrai que quand les personnes ne parlent pas la langue, voilà, je m'identifie avec la personne. Parce qu'il y a 18 ans, je ne parlais pas la langue. Mais j'avais envie d'apprendre la langue et de faire plein de choses. Donc, c'était déjà ça c'est le plus important. Et après, on a créé des fiches aussi, hein, où il y a des photos, il y a les photos de ce qu'on doit faire. On lui montre les photos, on fait des gestes. Et en fait, elle se met à leur place et on s'imagine... Et comment j'ai appris à ce moment-là et comment j'ai fait pour pouvoir suivre. Donc, j'essaye de lui faire des gestes, de faire je fais l'action et après, c'est à elle qui le fait. Donc, voilà, je me mets à sa place, je lui montre comment je dois faire, je lui dis ce qu'elle doit faire et je me mets, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à faire beaucoup de choses avec les personnes.
Et lorsque vous avez reçu le prix régional de l'ESS dont on parlait tout à l'heure en 2023, Laurent et Georges ont expliqué que vous crouliez sous les demandes à ce moment-là et que vous étiez même obligé de refuser des clients faute d'effectifs. Est-ce que les choses ont changé depuis? Est-ce que finalement le fait d'avoir été sous les projecteurs, ça vous a permis d'attirer peut-être plus de salariés? Et quelle visibilité justement ça vous a apporté de recevoir ce prix?
Alors, on a toujours effectivement cette demande forte. Je ne sais pas si le prix nous a accéléré la demande. On en a toujours, et notamment chez les particuliers qui nous appellent régulièrement en disant ben oui. Après, on sait qu'il y a de grosses difficultés à trouver du monde dans ce domaine-là, notamment chez les particuliers à domicile. Donc on a une liste d'attente. Les clients y comprennent aussi. Et puis alors nous on a un fonctionnement peut-être assez atypique ou pas. Je ne sais pas si nos confrères, nos concurrents font la même chose, mais comme on est très vigilant à la proximité de la localisation des clients par rapport au logement de nos intervenantes, on va construire, on va faire du sur-mesure en fait, et on va faire du sur-mesure comment? En allant piocher dans la liste des clients, la liste d'attente de nos clients, et quand on intègre une personne, qu'on la forme, alors elle va être formée en binôme par Agustina et par les autres intégratrices pendant plusieurs semaines, et ensuite, eh bien, on ira chercher les clients qui sont à proximité de chez cette personne, qui sont sur liste d'attente souvent et qui sont prêts à attendre parce qu'ils souhaitent travailler avec nous. Et puis, on va pouvoir construire comme ça un planning pour une personne.
Très bien.
Mais on a toujours cette difficulté-là. Aujourd'hui, c'est la difficulté de recruter pour répondre à la demande client. Ouais.
Donc, on peut dire que si certains ou certaines... Voilà, envie de rejoindre ce secteur, ou sont déjà dans le secteur et réfléchissent peut-être à changer d'entreprise, que ça peut être le moment.
On les accueille.
Voilà, avec le sourire, comme au studio. Je crois qu'il va être le temps pour nous de conclure. J'avais encore plein d'autres questions, mais tant pis, je le ferai hors micro. Merci en tout cas, Anne et Agustina, pour ce témoignage, pour ces beaux parcours, et puis également pour cette belle alternative dans un secteur qui en a besoin. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci.
Merci. En effet, du coup, c'est la fin de l'émission. Sachez que vous pouvez retrouver le podcast d'aujourd'hui, également des semaines précédentes, directement sur les émissions sur le site internet prune.net. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas de plus de conclusions à faire. On se retrouve semaine prochaine au rendez-vous comme convenu. Et n'hésitez pas à nous faire un retour si vous étiez également présent au blind test, du coup, au Magma pour les 25 ans de la radio. À bientôt, bonne soirée et bonne semaine et bon courage et bon travail.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Que faire ?
Mais travailler, voyons.
Mon père ne me le pardonnera jamais et je ne sais rien faire.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.